Alors, en attendant que le diaporama s'affiche, vu que tu n'étais pas en mesure de donner tout l'acronyme de ma structure, donc l'agence d'urbanisme de Besançon, Centre Franche-Comté, donc ça veut dire que le sigle n'a pas grand-chose à voir avec le contenu. C'est simplement pour vous expliquer ma présence ici aujourd'hui. Et en fait, on travaille pour faire court dans un axe nord-sud sur la région Bourgogne-Franche-Comté, de Vesoul jusqu'à la frontière. Ce qui justifie donc plus ou moins que je puisse avoir un truc à dire sur les mobilités transfrontalières. J'ai la lourde tâche de vous parler d'aménagement du territoire et d'outils de planification. Je vais essayer de ne pas vous perdre en cours de route. Parler de mobilité quand on essaye de faire de l'aménagement du territoire, ça veut dire se poser la question de qui fait quoi en matière de mobilité. Alors il y a bien évidemment, toujours de façon caricaturale, mais c'est le propre de nos propos en 10 minutes, un quart d'heure. Vous avez trois façons, trois leviers ou trois manières de rentrer dans le sujet. La première, c'est d'y rentrer par les infrastructures. On veut se déplacer, donc il faut bien qu'on ait un outil pour le faire. Et vous allez avoir à travers ça les routes, les autoroutes, le ferroviaire. Et ça va faire appel à des acteurs que vous connaissez bien, que peuvent être l'État sur les routes nationales, les grandes infrastructures de type autoroute, TGV, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Ça va faire appel également à la région à travers le transport ferroviaire, et nul doute que cette fois-ci, on va en reparler, et toutes les routes régionales également. Et puis, en fin de compte, ça va aussi faire appel aux départements qui, finalement, ont une responsabilité de gestion des routes locales qui ne sont donc pas sous couvert de la région. Deuxième façon de rentrer dans le sujet, l'animation et les services. En gros, qu'est-ce qu'on met en place pour se dépasser mieux ? Et donc là, à travers ça, on va parler de mobilité innovante, on va parler de mobilité partagée à travers le covoiturage, etc. On va parler d'outils numériques pour faciliter tout ça, on va parler de dispositifs de promotion, etc., etc. Ce levier-là, en matière de mobilité, va faire appel à des acteurs de terrain complètement différents du levier précédent. On va rentrer dans le domaine des collectivités locales, avec le plus souvent une impossibilité, une incapacité pour ces collectivités locales de gérer financièrement la totalité de ce qu'elles veulent mettre en place sur le territoire. Donc il va y avoir beaucoup de cofinancement État, région ou Europe, notamment pour un certain nombre d'expérimentations. On va rentrer aussi dans le champ des acteurs en matière d'associations locales, et nul doute qu'on en parlera avec les intervenants suivants. Et puis, on va avoir aussi les entreprises locales qui vont devenir acteurs de la mobilité. J'ai en tête notamment, et vous le savez probablement, tout le travail qui est fait par certaines entreprises côté Suisse, du côté des horlogers, qui vont chercher avec des bus leurs salariés côté français et qui les ramènent sur le territoire. Donc ça veut dire qu'une entreprise économique locale est aussi en mesure d'être acteur de la mobilité. Et puis enfin, troisième levier, l'aménagement et l'urbanisme, ce qui nous occupe pas mal à l'agence, vous vous doutez bien, où là on va se poser, au-delà de la question des infrastructures et de la manière dont on se déplaçait mieux, on va aussi se poser la question de la manière dont on pourrait bien se déplacer moins. Ça peut paraître un peu étrange, mais finalement, on en vient au niveau national, européen, international, à se dire, mais est-ce qu'on peut éviter un certain nombre de déplacements pour essayer de retrouver de la fluidité, en fait, notamment sur les réseaux d'infrastructures que j'évoquais précédemment. Et donc, on va là travailler sur la limitation de l'étalement urbain. Ouais, y a un petit problème quand même sur notre territoire de l'arc jurassien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est dans un territoire archipel. Pour faire en sorte que des transports collectifs fonctionnent, il faut quand même un petit peu du client, quoi. Et si le client il est un petit peu dispersé partout, ce qui est quand même le cas d'une grande partie de notre territoire, on va avoir un vrai souci, c'est que ça ne sera jamais rentable, que ça va prendre beaucoup de temps pour s'arrêter, pour aller chercher tout le monde, etc., etc. Donc, à un moment donné, sur des territoires un peu plus ruraux, on se pose la question de la limitation de l'étalement urbain. Donc, en gros, comment on fait pour concentrer les personnes qu'on est susceptible d'aller chercher pour amener d'un point A à un point B, pour faire court. On va aussi travailler sur l'anticipation des flux, sur la localisation des équipements et des activités, parce qu'il y a le point A et puis il y a le point B. Donc évidemment, si on a une dispersion d'un côté et une dispersion de l'autre, alors là, pour le coup, ça complique encore plus sérieusement le problème. Et en face de ça, vous allez avoir encore d'autres acteurs. Vous allez avoir encore une fois la région, Bon, on va y revenir après, mais la région prend beaucoup d'importance hein, en matière d'aménagement du territoire et de planification. Peut-être que certains d'entre vous sont particulièrement au fait de ces choses-là. On va avoir les collectivités locales à travers leurs documents d'urbanisme, et je vais revenir dans la diapositive suivante. Puis on va avoir d'autres structures publiques, les syndicats mixtes, les chartes, enfin, les PNR, les structures qui gèrent tous ces documents-là. Alors, c'est là où normalement j'en perds une paire. Donc on va parler un peu d'outils de planification. Vous avez à l'écran, en gros, à peu près l'exhaustif des documents et l'architecture des documents de planification en France. Je n'ai pas du tout l'intention de vous embêter avec tout ça. Et en plus, il y a une partie qui ne concerne absolument pas le territoire qui est notre sujet aujourd'hui. On va plutôt s'occuper de ce qu'il y a sous la flèche bleue, donc plutôt s'occuper de ce qu'il y a à droite. Alors vous allez me dire pourquoi je me... Je ne prends pas un petit peu de temps pour vous parler du truc bleu qui est en plein milieu qui s'appelle plan de déplacement urbain. Normalement, on devrait être un peu au cœur de la problématique. Sauf que ce plan de déplacement, il est obligatoire pour les agglomérations de 100 000 habitants et plus. Donc, eu égard au territoire qui nous occupe aujourd'hui, vous voyez qu'on est quand même assez loin de cette obligation à faire. Et vu qu'on a quand même déjà aussi pas mal de choses à faire, on ne se rajoute pas une obligation quand on n'en a pas l'utilité. Alors finalement, si j'essaye de résumer les choses, les documents de planification en France, donc on planifie le développement d'un territoire donné. Donc vous allez voir que d'un territoire, enfin que d'une échelle à une autre, évidemment, on ne fait pas exactement la même chose. Mais on est quand même un peu dans le millefeuille administratif français, hein, au cas où ça vous aurait échappé. Mais donc on va avoir des documents de planification la plupart du temps sur une échelle de temps de 20 ans. Donc on se pose la question, dans 20 ans, je veux quoi comme territoire et de quelles règles je me dote à l'échelle de la région, à l'échelle d'une commune ou d'intercommunalité. Donc de quelles règles je me dote et je nous dote afin de pouvoir organiser ce développement. Alors on va commencer par le haut, le SRADET. Donc c'est une compétence de la région. Pour la première fois en France, les régions sont dans l'obligation avant la fin de l'année prochaine, c'était milieu de l'année prochaine, mais ils ont tenu un petit délai, de réaliser des documents de planification. Et donc, globalement, la région est en train de définir sa politique à 20 ans. Qu'est-ce que je veux comme région Bourgogne-Franche-Comté à l'horizon 2040, 2050, pour ce qui leur concerne. Et ça a été voté, donc les grands axes stratégiques ont été votés en décembre de l'année dernière. Et maintenant, on est en train de travailler sur les règles d'urbanisme qui vont régir un petit peu tout ça. Ce document, il va donner quelques éléments d'information sur celui qui est juste en dessous, qui s'appelle SCOT, Schéma de cohérence territoriale. Ça, c'est un document qui est créé par des intercommunalités qui décident de s'unir pour travailler collectivement justement à un projet de territoire. Ce qui veut dire que autant le SRADET, c'est facile, le périmètre il est connu, c'est la région, autant un SCOT, il n'y a pas de périmètre qui est défini à proprement parler. On en parlait ce midi à table. Le SCOT de Besançon, par exemple, il y a encore 2-3 ans, il y avait 5 intercommunalités, 133 communes, et puis au gré de quelques lois sur la coopération intercommunale, on a perdu 3 intercommunalités, une vingtaine de communes, et donc maintenant on retravaille sur un SCOT deuxième génération avec simplement 2 intercommunalités. Au final, ce n'est pas le bon périmètre, notamment pour parler de la mobilité, mais pas uniquement. Donc ça a du bon parfois de laisser aux territoires locaux le soin de charger de créer un périmètre, mais parfois ça pose aussi quelques problèmes. Quoi. Et enfin, le troisième niveau, qui est le niveau de la commune ou de l'intercommunalité, vous avez entendu parler du plan local d'urbanisme, aujourd'hui plutôt du plan d'urbanisme intercommunal. Bon, c'est à peu près la même chose, c'est simplement une question d'intercommunalité ou pas. Ce qu'il y a à retenir par rapport à ces outils de planification, et ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend depuis la région vers le territoire local, on vient, à travers ces documents de planification, préciser le projet, préciser les règles. À l'intérieur du SRADET, c'est-à-dire à l'échelle régionale, vous ne verrez jamais une règle d'urbanisme précise. On est dans les grandes orientations, etc. En revanche, pour aller tout en bas, à l'échelle du PLU, on va régler, on va élaborer tout un tas de règles qui ont pour objet de donner des autorisations de construire ou pas à l'échelle de la parcelle. Donc on est vraiment au plus près. Mais tous ces documents vont parler mobilité, vont parler développement économique, vont parler habitat, vont parler économie, vont parler commerce, vont parler tout un tas de choses, et de plus en plus, bien évidemment, d'environnement, de mobilité durable, de transition écologique, énergétique et de résilience des territoires, ce qui va nous préoccuper en tant que professionnels pendant les prochaines années. Alors, je suis sûre que ça ne vous aura pas échappé. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ce qui se passe côté français, alors que le sujet, c'est la mobilité transfrontalière. C'est bien le problème de tous ces documents, au final, c'est que malgré les bonnes volontés des uns et des autres, à un moment donné, chacun est chez soi, et donc on crée des documents de planification et d'urbanisme pour chacun des côtés de la frontière. Alors, ce que je vous ai raconté sur SRADET, SCOT, PLU, il y a des équivalents côté suisse qui ne s'appellent pas pareil, évidemment, parce que l'organisation institutionnelle n'est pas la même, mais on arrive à se retrouver à peu près, mais en tout cas, on dépasse quand même assez peu, finalement, les frontières. Et donc, nous, en tant que professionnels, quand on commence à faire des documents, on commence forcément par faire des diagnostics du territoire. Donc là, on parle de nos voisins, on parle de ceux qui sont à l'extérieur du périmètre. Puis au fur et à mesure qu'on va venir préciser le projet, préciser les règles d'urbanisme, on va oublier qu'en face, il y a des gens en face de nous. Ou en tout cas, on ne va pas avoir la possibilité de rédiger des choses pour ceux qui sont en face de nous. Ils le prendraient assez mal et je pense que le contraire serait vrai aussi. Bon. Donc c'est un vrai problème en matière d'aménagement du territoire et de planification aujourd'hui. Que de finalement ne pas encore être complètement, ne pas avoir complètement dépassé ce que je suis en train de vous dire sur les règles de part et d'autre de la frontière. Pour autant, rassurez-vous, il y a quand même des personnes et des territoires qui commencent à dépasser un petit peu ce problème-là, mais c'est encore, à mon sens, un peu à l'état embryonnaire. Bon, donc évidemment, c'est d'autant plus facile de commencer à s'organiser et à se parler qu'on est nombreux et qu'on a des choses en commun de façon volumétrique assez importante. Je ne vais pas revenir sur le bassin genevois parce que vous en avez parlé assez fortement, mais il est assez symptomatique et exemplaire sur sa capacité depuis maintenant très longtemps à se poser la question de... notamment de la mobilité. Ça fait très longtemps que les bus de Genève vont de l'autre côté, notamment sur Saint-Julien, Genevois, etc. Donc, ce que vous racontez, enfin, ce que vous avez expliqué sur la suite, et notamment sur le tramway qui va aller de part et d'autre de la frontière, couplé avec une voie douce pour les mobilités douces, etc., vélo, piéton, tout ça fait partie d'une histoire qui est engagée depuis maintenant très, très longtemps. Je vous ai malgré tout mis un certain nombre d'exemples sur des territoires qui sont absolument pas comparables aux nôtres, mais parce que c'est ce que je disais à M. Vaufray aussi ce midi, ils sont beaucoup plus gros, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques géographiques ni les mêmes contraintes, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de choses à aller voir et à aller piquer en matière d'exemple. Le bassin strasbourgeois, c'est à peu près la même chose à travers un groupement européen de coopération territoriale. Ils travaillent un peu comme le bassin genevois depuis très longtemps sur ces mobilités transfrontalières et ils prolongent des lignes de tram, ils créent des lignes de bus spéciales frontaliers, etc. Après avoir pris le soin, bien évidemment, d'enquêter auprès des entreprises sur les besoins. Le bassin luxembourgeois, a priori, vous en avez parlé un petit peu ce matin, mais je n'étais pas là, je m'en excuse. Mais en 2009, ça commence à remonter un petit peu quand même maintenant. On élabore un schéma de mobilité transfrontalière. Alors, il y a une spécificité sur le Luxembourg qui, à mon avis, ne se retrouve pas chez nous, ni d'ailleurs à Strasbourg ou à Genève, c'est que au Luxembourg, ils ont un gros problème de pyramide des âges qui fait que les projections en matière de population active montrent qu'ils vont venir piquer de plus en plus de frontaliers côté français. Ça veut dire que démographiquement, il va y avoir un effet assez franc et assez rapide, d'ailleurs, dans les prochaines années. On voit monter... la mobilité transfrontalière, mais ça va être de pire en pire. Donc, ils sont déjà en train d'anticiper cet état de fait. Et puis récemment, j'étais la semaine dernière à Lille et j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres coopérations transfrontalières avec la création de schémas de mobilité transfrontalière. Et peut-être que le représentant de l'État pourra nous en dire un peu plus. J'ai redécouvert cette possibilité, a priori, qui est mobilisée notamment dans les Hauts-de-France, d'avoir un contrat de plan État-région qui donne du 1 pour 1 sur des projets transfrontaliers. Et donc, quand la région Hauts-de-France, pour être très clair, quand la région Hauts-de-France met un euro sur des problématiques transfrontalières pour trouver des solutions et donner à voir sur des infrastructures, mais aussi sur des services, bah de l'autre côté, alors ils font partie de l'Europe, ça aide, hein, mais j'en ai bien conscience, mais de l'autre côté, on met aussi un euro. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, va se poser la question sur nos territoires aussi, me semble-t-il, ce que Alexandre m'a demandé de donner mon avis, donc j'en profite, je le donne. On va avoir à un moment donné une vraie question sur le financement de l'ingénierie, etc., etc. Mais en tout cas, tous ces exemples en matière de schéma et de coopération transfrontalière montrent bien qu'il y a un certain nombre de choses que l'on pourrait commencer à mettre en œuvre ou qui sont à l'état embryonnaire chez nous et qui n'appellent qu'à être développées. Un petit point, malgré tout, sur ce qui est notre territoire. Donc, on l'a déjà dit, hein, dès lors qu'on est dans une topographie, un poids démographique disséminé, on limite les solutions que j'ai évoquées précédemment. Mais pour autant, on peut peut-être s'en inspirer. Évidemment, on a aussi un poids politique qui est moindre. On parlait tout à l'heure, et on y reviendra peut-être, notamment sur la ligne des horlogers. Et à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Le lobbying politique pour développer des infrastructures, pour les inscrire dans les documents de planification, dans les projets à l'échelle État, à l'échelle région, à l'échelle département, c'est un vrai enjeu. Et la ligne des horlogers, me semble-t-il, est assez symptomatique de ce que je suis en train de dire. Et puis, je l'ai déjà dit, mais généralement, on a un peu moins de services techniques et il n'y a pas de secret pour organiser... et pour être force de proposition et pour suivre et pour organiser les solutions sur un territoire, on a quand même besoin un petit peu de techniciens en plus des élus sur les points qui étaient précédents. Je ne vais pas revenir et pas développer beaucoup l'exemple du payeur loger parce que je me suis briefé avec M. Beaufray qui va vous en parler un petit peu, mais simplement pour dire que malgré tout, il y a des choses qui existent, qu'on est en train de tester, que ce soit du covoiturage, que ce soit du projet européen, même s'il n'est pas transfrontalier celui-ci. Je vous ai parlé des bus affrétés par les entreprises, je viens de vous parler du lobbying sur la ligne ferroviaire des horlogers. Bon, bref, il se passe des choses. Et le petit texte à droite vous rappelle simplement qu'on a un petit cas particulier à gérer qui n'est quand même pas des moindres dans les solutions que nous, en tant que professionnels, on est amenés à proposer au territoire. C'est que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, je ne vous apprends rien, mais ça pose quand même un petit souci, pour ne pas dire de gros soucis parfois. Et en tout cas, c'est des facteurs un peu bloquants ou très consommateurs de temps pour essayer de trouver des solutions qui, par défaut, ne peuvent pas être que des solutions liées à l'Union européenne. En revanche, ce qui nous paraît extrêmement intéressant aussi, c'est que côté Suisse, on a une volonté réglementaire très forte et une appétence au développement durable et de la transition énergétique qui, à mon avis, est un petit peu en avance par rapport au côté français. Et donc, ça oblige aussi les territoires français à se poser un certain nombre de questions, notamment le fait d'abandonner, d'être en tout électrique au niveau ferroviaire à terme, etc. etc. Alors déjà qu'on a des problèmes pour cadencer, pour trouver des moyens, mais en plus, à un moment donné, il va falloir qu'on change le matériel roulant, entre autres, mais j'imagine que vous y reviendrez, donc j'en parle pas. Pour terminer, et sans vouloir développer tout, mais c'est simplement pour peut-être un peu lancer la discussion tout à l'heure ou mettre à débat un certain nombre de choses, on a, me semble-t-il, des solutions, bien évidemment, à mettre en place. L'idée, c'était aussi de vous livrer quelques pistes complémentaires à celles qui ont déjà été évoquées, celles qui le seront après. Mais, et j'en parlais également ce midi, moi, je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, une partie de notre métier d'aménageur et d'urbaniste, c'est avoir le droit de tester et avoir le droit de se tromper. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne à une partie de notre métier qui consiste à dire, à tester sur des petits territoires, sur des petits projets, etc., de pouvoir faire l'évaluation de ces projets, de se dire qu'est-ce qui est transposable, qu'est-ce qui peut augmenter. On a perdu un petit peu ça, me semble-t-il, dans les territoires, pour deux raisons. D'autre part, d'une part, on a tous beaucoup de travail, et d'autre part, on a tous un petit peu moins d'argent à y consacrer. Donc, tout ça est assez néfaste, et c'est exactement... ça produit un effet qui est exactement contraire à celui qui devrait être mis en place, c'est-à-dire qu'on devrait beaucoup plus innover, beaucoup plus essayer, à mon sens. Alors, quelques pistes d'action. L'autostop organisé, alors version Lac d'Annecy pour ceux qui connaissent, mais il y a aussi le réseau, réseau Pousse, dont vous avez une petite illustration. Bon, c'est une alternative au covoiturage. Globalement, comment ça fonctionne? Vous inscrivez sur un site et puis après vous mettez un arrêt de bus et puis vous faites de l'autostop et vous êtes identifié comme étant autostoppeur de ce réseau-là. Manifestement, ça marche très très bien. Moi, personnellement, j'ai jamais testé. Mais sur des réseaux peu denses, ça peut marcher si tant est que on trouve une alternative à l'arrêt de bus qui n'existe pas par définition en milieu rural. La question de la création des lignes de bus spéciales frontaliers pour dépasser la simple organisation issue de l'initiative des entreprises côté suisse que j'évoquais précédemment. Évidemment, si on essaye d'aller encore un peu plus loin, une fois qu'on aurait créé, pourquoi pas, ces lignes de bus frontaliers, on pourrait peut-être aussi leur donner une certaine forme de priorité sur les réseaux engorgés qu'on évoque. Bon, à voir. Après, on est côté France, donc vous ne méconnaissez pas notre grande capacité à faire changer les comportements par l'argent. Et donc, il y a peut-être aussi des choses à creuser sur le financement des solutions collectives par tous ceux qui sont individualistes et qui restent attachés à leur voiture en étant tout seuls. En gros, les non-covoitureurs, les non-transporteurs en commun, etc. etc. Ça ne fait pas plaisir. Moi, je fais partie de ceux qui sont tout seuls dans une voiture, mais ceci étant, ça pourrait marcher. Vous avez compris que l'idée, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ce n'est pas une solution parmi d'autres. Ça peut être une somme de solutions, d'autres solutions. Enfin, il y a tout ça à tester sur les territoires et à multiplier. Multiplier les services à destination des frontaliers utilisateurs des solutions collectives. On voit très bien que, et c'est notamment le service de covoiturage sur l'arc jurassien qui nous y fait penser. Il y a deux choses par rapport à ça. On a réussi, même si ça redescend un tout petit peu maintenant, on a réussi à fidéliser une clientèle parce qu'on leur proposait autre chose que du covoiturage. C'est ce que vous voyez sur les parkings relais à Besançon, hein, du service à la personne, les courses qui sont stockées quelque part, le pressing, etc., etc. Donc ça, ça permet de fidéliser des personnes en filière de covoiturage. Et puis, un dernier point sur ce que j'évoquais précédemment, donc sur le travail concernant la non-obligation de se déplacer avec des choses assez classiques, le télétravail, le coworking. Évidemment, ça ne marche pas bien pour l'industrie, ce que je suis en train de vous dire. Mais enfin, d'un autre côté, dans l'arc jurassien, il n'y a pas que de l'industrie. Et les propos précédents confirment ce que je disais. Donc, il y a un travail qui est en cours sur justement cette capacité de développement dans l'arc jurassien côté français à avoir des espaces de coworking et de télétravail. Je sais que sur Genève, ils sont en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Évidemment, je veux dire, les frontaliers qui arrivent à Genève, j'ai un vague souvenir qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui rentrent dans le canton de Genève tous les jours, de tous les côtés. Alors vous voyez bien qu'à un moment donné, on a beau créer les infrastructures et mettre tous les transports en commun qu'on veut, il y a de l'engorgement et ce n'est pas possible, quoi. Donc ils sont en train de travailler là-dessus et si mes souvenirs sont bons, il y a une volonté de mettre en réseau 46 espaces de covoiturage, de coworking, pardon, pour justement éviter aux salariés et à certains salariés sur certains jours, etc., d'être dans l'obligation d'aller jusqu'au bout de leur parcours. Bref, voilà autant de pistes que je voulais soumettre à au débat plus tard et peut-être d'en compléter d'autres avec les propositions suivantes.